Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bon samedi à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Okapi et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le portrait d'une femme plutôt active. Je vais la résumer, c'est 20 ans de carrière professionnelle, elle est polyglotte, c'est deux langues nationales qu'elle parle, plusieurs langues étrangères, notamment le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, madame Jacqueline Moulamba. Caridas, bonjour.
Bonjour madame.
Est-ce que ce résumé vous convient?
Ça va. Ça va.
Alors vous êtes native de la ville de Kindu, nous sommes exact. Dans la province du Maniema. Vous êtes née là-bas et oui. Puis vous n'y êtes restée que quelques
et
années.
Puis, et je suis venue vivre à Kinshasa.
Vous êtes venue vivre ici à Kinshasa où vous allez suivre donc vos études primaires dans la commune de Lemba.
Exact.
Et après vous retournez encore dans l'est du pays, oui. Plus précisément à Bobandana. Nous oui. sommes là au nord Kivu. C'est pas mal de voyages que vous commencez à faire déjà dès votre jeune enfance.
C'était malgré moi. Quand on est enfant, je ne pense pas qu'on choisit nécessairement. Et donc, je me suis retrouvée effectivement à l'internat à Bobandana, chez les frères Maristes. C'est une très bonne école, une très bonne formation.
Alors, est-ce que justement tous ces déplacements que vous avez commencé très jeune, parce que vous allez poursuivre ça encore jusqu'en 2011, est-ce que ça vous a orienté, vous, dans les choix que vous avez dû faire par rapport à votre travail?
Je pense que le voyage, ça, pour peu qu'on ait l'esprit un peu ouvert, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir parce que nous nous retrouvons dans des endroits différents, avec des personnes différentes, des cultures différentes. Parce qu'en étant à l'Est, en fait, mon père travaillait au Rwanda, à Kigali. Voyager, c'est certain. C'est certain que ça ouvre l'esprit, c'est certain que ça donne des opportunités. Je m'en rappellerai toujours justement, quand j'étais encore à Bobandana, on a dû faire une dissertation. La dissertation, c'était « Qui choisissez-vous entre un appareil de musique ou un voyage ?» Moi, je me rappelle que instinctivement, j'avais choisi le voyage et j'ai dû détailler pourquoi le voyage était important.
Et tout ça, j'ai envie de dire, va être déterminant dans votre carrière professionnelle.
Oui.
On va le voir au cours de cette émission. Alors, madame Jacqueline Moulamba, après vos études secondaires, vous allez donc poursuivre les études supérieures en Belgique. Vous allez apprendre la gestion de transport et logistique d'entreprise. Donc, vous terminez votre cycle universitaire. Et puis, vous choisissez de retourner ici à Kinshasa pour travailler. Alors là, vous restez toujours dans votre domaine qui est la logistique.
Exact. Déjà, quand j'ai fini mon année, enfin mes études, j'ai eu mon diplôme d'État, je ne suis pas partie tout de suite. J'étais d'abord à Lubumbashi pendant une année. Je fais des cours par correspondance d'informatique, mais ce n'était pas du tout mon truc, donc je n'ai pas aimé. Et c'est qu'on doit se rendre compte, c'est beaucoup de jeunes, quand ils terminent les secondaires, ne savent pas toujours quelle orientation prendre. Donc, on m'avait essayé d'orienter vers l'informatique parce qu'on me disait c'était un métier d'avenir, etc.
Oui.
C'est vrai. Par contre, les faire par correspondance, sans doute, c'était pas très motivant. J'avais un professeur qui venait aussi à la maison, mais en tout cas, je n'ai pas accroché. Je l'ai fait pendant une année, mais j'ai pas accroché. Et quand j'ai eu la possibilité d'aller continuer mes études en Belgique, j'étais partie avec l'idée de faire gestion d'entreprise. Mais j'étais déjà à l'époque fiancée, donc j'allais me marier et la personne que j'allais accompagner dans la vie, c'était un médecin qui travaillait des pays en pays ou des endroits, différents endroits. Donc je me suis dit, il faut que je prenne une orientation qui pourrait me permettre de travailler où qu'on aille. À cette occasion, j'avais déjà eu l'occasion de voir, de rencontrer des personnes qui travaillaient dans l'humanitaire, entre autres les personnes de Médecins Sans Frontières. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter un jour, par hasard, avec un logisticien. Mais je ne savais pas encore ce que ça voulait dire. Je faisais indirectement de la logistique.
Sans le savoir.
Sans le savoir, oui. Parce que j'accompagnais mon fiancé dans tous les déplacements, dans tous les l'ex-Katanga, qui était très grand. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'aller en Belgique, j'ai effectivement opté pour la gestion de transport et logistique.
Et vous avez jugé que c'était le secteur qui vous convenait le mieux.
Absolument, parce que je me suis dit, bon, la logistique, où que vous soyez, vous pouvez travailler dans un hôpital, vous pouvez travailler à l'armée, vous pouvez travailler dans une entreprise, des productions, des services, etc. Donc ça a été un choix. Et c'était un choix très intéressant parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes.
Ça vous a ouvert beaucoup de portes. Oui. Après, donc, Kinshasa, vous faites encore la Belgique, le Cameroun.
Belgique, Cameroun, mais je ne suis pas restée. C'était vraiment des petits voyages. Voilà. Et puis, j'ai émigré vers le Brésil.
Vous êtes partie...
Où je suis restée 10 ans.
Vous êtes partie pour le Brésil. Vous y restez donc 10 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 ans? Vous m'avez dit que vous avez suivi des formations.
Vous y avez travaillé aussi. Oui. Donc, j'ai travaillé, mais j'ai fait... La formation de gestion de projet, parce que quand on arrive dans un pays, bon, ben, on essaie de trouver quel est, par où commencer, etc. J'ai fait la gestion de projet et puis gestion de tourisme et guide de tourisme. J'ai travaillé avant tout dans le tourisme, sur les terrains et au bureau.
Donc, pourquoi le tourisme? Pourquoi vous n'avez pas continué, madame?
D'abord parce que au départ,
la logistique.
Non, au départ, je ne maîtrisais pas tout à fait la langue. Donc, je suis arrivée là, et il a fallu apprendre. Donc, ce que j'avais des plus que les autres, c'était dans le tourisme, j'avais le français. Et le Brésil, vous savez, c'est une destination touristique. Donc, quand j'ai fait la formation de gestion de projet, ça m'a ouvert d'autres possibilités. Et là, j'ai travaillé dans deux entreprises agroalimentaire. La première entreprise était dans une ferme. On produisait tous les produits maraîchers et des orchidées. Par la suite, ça a été dans l'élevage de poulets. J'ai quand même pas mal visité le Brésil et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de modèles. J'ai pensé beaucoup à mon pays parce que j'habitais à Salvador de Bahia, qui est une ville au bord de mer, la ville la plus africaine de toutes les villes brésiliennes.
Oui.
Et donc, en regardant la mer de l'autre côté, je me disais, mon pays est de l'autre côté.
Oui.
Donc, l'Afrique est de l'autre côté. On ne le voit pas, mais il est juste de l'autre côté.
Vous savez que ça se trouve en face.
Voilà. Et bon, j'avais une fille et elle commençait à grandir. Donc, elle ne connaissait pas le Congo parce qu'elle est née pendant j'habitais ici. Mais je suis partie très tôt avec elle. Elle avait 2 mois. Et donc, elle parlait français parce que je lui parlais français à la maison. À l'école, elle avait le portugais, mais je voulais quand même qu'elle connaisse ses racines.
Alors, on va y arriver, Madame Jacqueline Moulamba. J'aimerais que vous nous parliez de cette expérience au Brésil.
Oui.
Le tourisme, ça l'est très beau, hein, parce que le Brésil est l'une des plus grandes destinations touristiques dans le monde. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? Comment est-ce que vous avez fait pour vous intégrer justement dans cette société que vous découvrez et où vous ne maîtrisez pas, vous ne parlez pas la langue?
Bon, le Brésil a quelque chose de magique. Moi, je dis toujours que s'il y a un laboratoire de la race humaine sur Terre, c'est bien le Brésil. Le Brésil, c'est le seul pays, la seule terre où j'ai retrouvé toutes les races du monde. Et ils vivent, entre guillemets, en harmonie. Bien sûr, il y a ces décalages entre les pauvres et les riches, mais vous allez trouver les Amérindiens, je vais dire les autochtones d'origine, donc ce qu'on appelle les Indiens. Il y a eu les Portugais qui sont arrivés, donc la race blanche. Vous avez les Africains, donc nous, qu'on nous a importés là-bas avec
des forces,
oui. Pendant l'esclavage. Vous avez les Japonais qui sont arrivés il y a plus d'une centaine d'années, qui ont immigré. Vous avez des Turcs. Vous avez des Libanais, enfin des Turcs, non, des Libanais, parce qu'à l'époque, eux, ils appelaient ça Turc, mais c'est des Libanais. Vous avez des villages entiers où vous allez retrouver des Italiens, des Ukrainiens, des Allemands. Il y a même des villages un peu plus au sud du Brésil où on ne parle que allemand.
Wow.
Oui, il y a des villages tout à fait ukrainiens, comme si vous étiez en Russie ou en Ukraine. Donc c'est un mélange, et tous ces gens-là, ils se sentent brésiliens. Contrairement à beaucoup d'autres pays, ces gens, ils savent qu'ils sont brésiliens, ils parlent une et une seule langue et tout le monde est intégré. Donc, c'est une richesse.
En termes culturels.
Exactement, parce que chaque pays, chaque race ou chaque personne a apporté d'où il vient quelque chose. Et ça fait cette richesse du Brésil aujourd'hui.
C'est la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Madame Jacqueline Moulamba Caridas, directrice de ressources humaines dans une entreprise locale. Vous êtes également femme entrepreneur, j'ai même envie de dire très active. Vous êtes aussi dans le domaine social. Alors, en première partie de cette émission, on a parlé de vous, de vos 10 années passées au Brésil, où vous avez travaillé dans la gestion des projets, dans la gestion du tourisme. Vous avez travaillé aussi dans l'agroalimentaire.
Ça a été encore plus enrichissant de se rendre compte que le Brésil n'importe, pour ainsi dire, rien de ce qui est alimentaire.
Bien au contraire, et il bien exporte.
Bien au contraire, puisque nous avons du poulet qui vient du Brésil, etc. Et donc, c'est, je crois que c'est à partir de là que ça a commencé à passer dans ma tête en me disant, mais on a tout ça ici, on a le même climat. À la différence que la saison des pluies est intense chez eux, c'est au mois de juin. Mais on a le même type de climat. Et on arrivait à faire tout pousser. Des mes mains, dans la petite ferme, je pouvais faire pousser de la salade. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça au Congo?
Alors ça commence à tilter un peu dans votre tête.
Oui, tout doucement, doucement.
Alors en 2011, donc, vous rentrez ici, au Congo.
Au moment de revenir, j'ai comme quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, bon, ok, je vais rentrer, mais pourquoi n'y pas rajouter encore une formation supplémentaire? Comme j'avais la possibilité de repasser par l'Europe, que je connaissais la Belgique, je me suis arrêtée en Belgique. J'ai fait une formation en gestion de qualité. Pourquoi la qualité? Parce qu'en vivant au Brésil, tout ce qui est qualité commençait à devenir quelque chose d'important dans toutes les entreprises. On demandait la qualité. Tout ce qui est certification, ISO, etc. Donc, je me suis dit, je me prépare parce que ça pourra peut-être être quelque chose en plus que je peux amener dans mon pays. Donc, en 2011, effectivement, je suis revenue.
Alors, Madame Jacqueline Moulamba, vous avez une grande expérience dans la logistique et aussi dans les ressources humaines. Pour vous, quel est le profil d'un bon salarié? Quand vous êtes en panel pour engager un nouvel employé, c'est quoi le profil idéal?
Bon, avant de se retrouver face à un futur employé, vous aurez sélectionné, bien entendu, les CV.
Exactement.
Donc, c'est là où commence tout ce qu'il faut. Les profils, vous déterminez au sein de l'entreprise le profil que vous recherchez. Donc, quand vous faites l'annonce, vous avez déjà établi le profil. Vous comparez les CV et vous retenez les CV qui répondent. Bon, ça ne répond jamais exactement, mais
plus ou moins l'offre.
Maintenant, une fois que vous êtes en face de candidat employé, le recrutement ne se fait pas seul avec un responsable des ressources humaines. Ça s'est fait généralement avec les responsables des ressources humaines, les personnes, les responsables du département qui est concerné. Bon, chez nous, par exemple, dans nos procédures, nous devons être au minimum à trois. Donc, les candidats à l'emploi, c'est mis face à vous. Et bon, quel est le profil?
Premièrement, ou peut-être que j'aurais dû demander, c'est quoi un bon CV pour un salarié? C'est quoi les caractéristiques?
Non, vous savez, bon CV, on a déjà un sérieux problème ici au Congo. Les CV sont, maintenant ça commence à aller un peu, mais les CV tendance, les gens, ils ont tendance à vous faire un CV où ils détaillent leurs origines. C'est pas ça qui est important dans un CV. Ni dire que vous êtes de tel district, etc. C'est pas ça. J'ai besoin de connaître votre nom, vos contacts, ça veut dire l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel électronique. Oui. Et puis, votre état civil. Vous êtes marié, vous avez des enfants. C'est ça qui est important. Par la suite, ce qui importe maintenant, c'est votre formation. Qu'est-ce que vous avez étudié? Quelles sont les formations supplémentaires? Et votre expérience professionnelle, éventuellement, les langues que vous parlez, les hobbies, etc. Si vous avez d'autres activités, etc. C'est ce qui est important, premièrement. Deuxièmement, quand on est maintenant, pendant le recrutement proprement parlant, l'attitude. Pour
est-ce
moi,
que vous êtes plutôt vous, Madame Moulamba, du genre à intimider un peu justement ce candidat qui vient prétendre un poste?
Non, parce que je me dis toujours que un jour j'ai été à cette place-là et je peux aussi me retrouver de nouveau à cette place-là.
Donc vous comprenez un peu quand on tremble,
absolument.
Quand on bute sur une phrase.
Généralement, quand je sens que la personne n'est pas très à l'aise, on blague d'abord un peu, on met la personne à l'aise, on met de l'eau, etc. On pose des questions qui n'ont rien à voir parce que les gens viennent, ils sont généralement très rigides, très raides.
Oui.
Comment ça? Je suis madame ou bien je suis monsieur?
Vous nous intimidez, c'est normal.
Non, on n'intimide pas du tout. Oui. On doit avoir une certaine attitude professionnelle, c'est certain, sérieux. Mais
la tenue compte.
La tenue compte absolument, la façon de s'asseoir. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des attitudes. Parce que dans le CV, on a soi-disant les compétences. Et on va passer à l'étape compétences après. Mais l'attitude de la personne, tout de suite vous savez dire cette personne-là a une bonne attitude ou pas. La manière de se tenir est très importante. La manière de parler est très importante. Vous venez en interview pour un emploi et vous vous asseyez comme si vous étiez dans votre salon. Déjà, c'est pas correct. Vous êtes un homme, on ne vous demande pas nécessairement de venir en costume, Mais une chemise propre, vous êtes propre, rasé, etc., c'est bien. Vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin de commencer à mettre tous vos atouts féminins à l'extérieur. Je veux dire, un décolleté exagéré, etc.
Je vais faire mon brushing avant.
Non, vous pouvez faire tout ça, oui, mais ne venez pas comme si vous alliez en boîte de nuit. Parce que normalement, quand la personne vient, on se dit, ok, elle veut jouer sur ses atouts féminins et donc elle peut être un élément perturbateur.
Donc le profil psychologique, vous le voyez déjà au premier
dans
contact avec le candidat.
Oui. Et puis après, ben viennent toute la partie technique. Généralement, je cède cette partie technique-là au responsable du département parce qu'il a plus de finesse. Mais j'interviens de temps en temps quand ça bloque, etc. Et donc, voilà. En gros, c'est surtout ça.
Oui.
C'est d'abord les attitudes et la façon de parler très importante. Parce qu'il y a des gens, pas, quand ils sont en stress, ils deviennent agressifs. C'est pas agréable d'avoir une personne qui est en face de vous et qui est agressive pour rien du tout. Donc ça, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, il est aussi important de dire au personnel, aux personnes qui ont la charge, donc des ressources humaines, donc les DRH en général, d'être un peu plus gentils quand ils reçoivent les gens qui viennent postuler et de les mettre à l'aise, qu'ils s'y sentent bien parce que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est très très compétent mais qui est mal à l'aise parce qu'il ne sait pas s'exprimer facilement. C'est pas tout le monde qui a la dextérité de la parole et tout, donc il faut le mettre à l'aise. Vous risquez de perdre une ressource qui est en face de vous parce que vous êtes trop rigide, parce que vous n'avez pas su le mettre à l'aise.
Il y a aussi une question, Madame Moulamba, que souvent les jeunes qui sortent de l'université se posent. J'écris un CV, on me demande une expérience professionnelle de 2-3 ans. Moi, je viens à peine de terminer mes études. Comment je fais?
Bon, c'est vrai qu'il y a certains postes, on a besoin que la personne ait de l'expérience. Mais moi, je me rappelle toujours, j'étais butée à ça quand je suis sortie de l'université. Et j'ai dû répondre en disant à la personne, vous ne pouvez pas en même temps demander de l'expérience et un diplôme. Généralement, c'est l'un d'abord ou l'autre. Pour que je puisse acquérir de l'expérience, il faut me donner une chance. Donc, je viens de nouveau vers les professionnels des ressources humaines, de donner la chance aux jeunes qui arrivent. Parce que les ressources humaines sont là pas seulement pour engager et licencier. Ils sont là pour suivre toute la vie de cette ressource humaine qui rentre dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut le former. Déjà, dès qu'il entre dans l'entreprise, il faut lui donner un mentor, quelqu'un qui est de son département, qui va pouvoir le suivre, l'aider.
Durant sa carrière dans l'entreprise.
Du moins au début, le temps qu'il prenne ses marques, etc. C'est très important. Et les formations sont très importantes.
Les formations sont très importantes. Vous, dans votre cas, vous en avez suivi pas mal, on a dit. Vous avez à peu près 20 ans d'expérience professionnelle, formation comprise. Alors, vous avez eu aussi une formation en gestion de qualité. Comment jugez-vous justement le rapport qualité-prix dans les entreprises privées ici chez nous? Peut-être même publiques aussi, mais surtout dans les entreprises privées.
Moi, je pense que les grands problèmes ici, c'est les services du consommateur n'est jamais pris en compte au Congo. C'est un sérieux problème. On n'a pas un service du consommateur. Quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées, les clients sont censés être rois, mais on ne traite pas bien les clients. Donc, c'est déjà un problème. Quand vous parlez de rapport qualité-prix, ce que moi je fais comme étude, c'est pas nécessairement, ça va pas seulement nécessairement dans ces sens-là.
Non, je veux dire, qualité, dans la qualité des services rendus.
La qualité de service rendu laisse quelquefois à désirer chez nous. Parce qu'on n'a pas encore compris que nous vivons grâce aux clients. Et donc, les clients, bien sûr, on n'a pas non plus à s'aplatir complètement devant les clients, mais on doit rendre un service qui est convenable ou plus que convenable pour que les clients reviennent. Vous entrez, je vous donne un simple exemple, vous entrez dans une boutique ici, la vendeuse elle est là, elle vous regarde, c'est comme si, et quand vous lui posez une question, c'est comme si vous la dérangez.
C'est partout, dans les banques, les entreprises,
oui, mais moi je suis désolée, quand je suis face à quelqu'un comme ça, je commence gentiment à lui demander s'il a un problème. S'il me dit non, je lui dis, mais alors pourquoi vous êtes fâché? Même au restaurant, je veux dire, ça n'a pas de sens. Si moi, cliente, je ne viens pas, vous perdez votre travail. Donc, si je viens, la moindre des choses, c'est d'avoir... Je pense qu'il faut former. On a besoin. Il suffit pas qu'il y ait quelqu'un qui ait un diplôme gauche-droite. Il faut former les gens en fonction des activités qu'ils ont. Et les personnes qui ont soit cette boutique-là, soit ce restaurant-là, doivent investir dans la formation. Il est très important. Le service à la clientèle est vraiment inexistant au Congo. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont.
Alors, Madame Moulamba, on a parlé des employés, on a parlé de la qualité des services rendus ici dans les entreprises. C'est quoi les qualités d'un bon manager?
Bon, d'abord, on a tendance à utiliser le mot manager. C'est quoi un manager? C'est un directeur. Donc, c'est un responsable d'un département. C'est quelqu'un qui doit savoir avoir une vision à long terme. C'est pas quelqu'un qui doit gérer au jour le jour. Il doit savoir planifier. Il doit voir les choses en grand. Il doit avoir un cœur de mère ou de père parce que il doit voir toutes les personnes qui sont dans son département. Il doit pouvoir les gérer. Il doit pouvoir gérer son stress à lui et quelquefois les stress des autres. Il doit pouvoir élever les autres. Ça veut dire déléguer les tâches, faire en sorte que les autres apprennent de lui. C'est ça un bon manager. Un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est là pour commander tout le temps sans jamais tenir compte des autres. Il est certes manager, mais il peut avoir quelqu'un dans son département qui est de loin, beaucoup plus bas, un subalterne tellement loin, un simple petit technicien, même des surfaces, mais qui peut lui apporter quelque chose. Donc, il faut pas, le fait d'être manager, c'est dire, ok, je n'ai rien à apprendre. Non, non, au contraire.
Je l'ai dit quand je vous présentais, vous êtes aussi femme entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un conflit d'intérêt entre le fait que vous travaillez pour une entreprise privée et que à côté vous avez votre propre société aussi, même bon, si elle est dans un autre secteur?
C'est vraiment dans deux secteurs différents. Mm-hmm. Ça serait conflit d'intérêt si on est dans le même secteur. Si là j'étais la télécommunication, si je me mettais à faire la même chose, ou quand j'ai travaillé comme logicien, si je commençais à avoir une entreprise des logistiques à côté, oui, mais ce n'était pas le cas.
Jacqueline Moulamba, vous êtes aussi dans le social. Vous êtes vice-présidente d'une association qui s'appelle Love Air.
Love Air One, excusez-moi,
qui, elle, vise la scolarisation des enfants vivant dans la rue.
Oui, la nuance vivant dans la rue, moi, je préfère le dire de cette façon-là parce que on a tendance à dire les enfants de la rue. La rue n'enfante pas les enfants. C'est vrai, on a des chègues, comme on les appelle aujourd'hui, ils vivent dans la rue, mais leur maman, c'est pas la rue. Ils sont bien sortis d'une famille. Et pour des raisons socio-économiques, ces enfants se retrouvent dans la rue. Mais ce sont pas des enfants de la rue. Ils vivent dans la rue. Et nous, l'idée derrière ça, c'est de les sortir de là. Parce que nous savons bien, ils commencent tout petits, ils vivent dans la rue. La rue, ce n'est pas un endroit pour personne. Et encore moins pour un enfant, parce qu'il n'a pas d'avenir. Il va passer son temps à mendier. Il y a de la violence, il y a de la drogue, il y a beaucoup de choses. Donc on s'est dit, on va essayer de les sortir de là. Mais bien sûr, comment est-ce qu'on va scolariser un enfant qui vit dans la rue?
Exactement, c'est ma question.
Donc derrière ça, nous espérons trouver suffisamment de fonds pour créer un centre d'accueil, donc pour loger ces enfants-là et puis les scolariser.
Et donc, pour conclure, le projet est encore, on va dire, en gestation. Hein. Ils cherchent des partenaires.
L'idée est là, les terrains est là, oui. Donc on cherche des partenaires.
Alors, vous êtes à côté de cela, la fondatrice et présidente de l'ASBL Ajuda, qui est un mot portugais qui signifie aide. Mm-hmm. Là encore, l'idée pour vous, c'est de venir en aide aux orphelins, aux orphelins et à toute personne démunie, principalement des femmes, des veuves. Et qu'est-ce que vous faites d'autre exactement?
Alors, pourquoi Ajuda? Le Brésil m'a appris beaucoup de choses. On peut s'inspirer de ces pays-là. Il y a beaucoup de violence et je n'aimerais pas que nous déversions vers cette violence-là dans laquelle vivent la plupart des villes au Brésil. Pour ça, il faut quoi? Il faut limiter les dégâts dès les départs. Il faut donner une chance à chaque personne d'avoir une activité commerciale, quelque chose qui peut lui permettre d'avoir de quoi manger. On a d'un côté des orphelins. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a énormément d'orphelinats, spécialement dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Ces orphelinats-là, malheureusement, n'ont pas de soutien au niveau du gouvernement. Et ça, j'interpelle toutes les personnes qui ont le pouvoir des décisions au niveau du gouvernement. J'aimerais bien qu'ils pensent à ces enfants-là.
Mais est-ce que c'est pas mieux justement d'organiser toutes ces ONG, ces ASBL qui évoluent un peu de manière éparse, les organiser en plateforme pour mieux fonctionner et être une force?
Ça, je pense que oui, ça serait une très bonne chose. Maintenant, il faut voir, on a énormément de ONG au Congo et j'ai pas toujours l'impression que c'est vraiment des vrais. je suis désolée, je vais peut-être choquer beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes, à un moment donné, ils ont créé des ONG tout simplement pour éviter les taxes quand ils font leurs activités. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que on est censé créer ça pour aider les autres. Et votre, comme vous dites, c'est déjà une idée que j'ai en tête, il serait intéressant de se regrouper au niveau d'une plateforme, selon les activités qu'on a à faire, parce que l'union fait la force.
Se regrouper et travailler finalement ensemble. Alors, j'aimerais parler de ce projet justement que vous avez mis en place aussi, celui de microfinance, hein,
c'est bien ça,
microcrédit.
Au départ, j'ai vu, sur les terrains, je vois beaucoup de mamans surtout qui souffrent, qui vivent vraiment, on peut le dire, dans la misère, qui se réveillent le matin, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à donner aux enfants. Et moi, je suis absolument contre les sociales où vous faites que donner. Ayant travaillé un peu dans le milieu de volontaires, etc., j'ai vu ça. Dans notre pays, on a reçu énormément de dons. À un moment donné, il faut s'arrêter et se dire qu'est-ce que ça a apporté. Donc, est-ce qu'il n'est pas intéressant, à un moment donné, de nous prendre en charge? Donc, j'ai mis ça à un niveau plus bas. Donc, j'ai face à moi une personne qui est démunie. Je ne pourrais pas lui donner à manger tous les jours. Donc, j'essaie de lui trouver une activité pour qu'elle puisse se débrouiller. Je leur ai dit, je commence, mais ça va être des montants, des tout petits montants.
Mais vous n'êtes pas une institution financière.
Non, je le fais en tant que bénévole. Je le fais juste pour le social.
Et
pour
vous
aider.
Donnez combien?
Ça varie, c'est vraiment des tout petits, comme je vous dis. L'idée, c'est quoi? Une maman qui vend le pain, elle puisse avoir sa bassine et le pain à vendre. Une maman qui vend le macala, elle puisse avoir. Donc, ça peut partir de 20 000 à 50 000, pas au-delà, parce que je n'ai pas de moyens. Donc, je cherche des gens qui peuvent aider.
Ça, c'est de l'argent de votre poche?
Oui, c'est de l'argent de ma poche.
Et donc, vous donnez comme ça à ces femmes, à ces personnes, j'ai envie de dire.
À les personnes, en fait, pourquoi?
C'est des personnes qui sont...
Non, je travaille avec des communautés.
Oui.
Je travaille avec des communautés. L'idée, c'est encore une fois de plus le Brésil qui m'a inspirée. Ils travaillent beaucoup en communauté. Même dans les favelas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés. Donc, j'ai voulu transposer ça ici.
Et ici, concrètement, à Kinshasa, c'est avec qui?
Oui.
Bon, quelle communauté, hein?
Non, plusieurs. Les plus, moi, j'habite à Angalema, donc, c'est plus Angalema. Je suis à Mongafula, je suis à Barumbo. Ce sont les trois vraiment communes où, je peux dire concrètement, on l'a déjà fait.
Et avec combien de personnes?
Aujourd'hui, je pourrais parler de 200-300 personnes.
200-300 personnes à qui vous donnez à chaque fois?
Bon, c'est pas à chaque fois je donne et puis c'est parti. Non,
voilà,
on reste dans une communauté. Mm-hmm. Donc, on crée une communauté, on essaie d'avoir un responsable des communautés, on les sensibilise, on leur dit, vous pouvez pas continuer comme ça, donc on vient avec ceci comme idée. On met une certaine somme. Dans une petite communauté, selon la taille de la communauté, on peut choisir 20-30 personnes, on donne. On essaie de les guider, on essaie de leur expliquer comment fonctionner. On prend éventuellement des mamans qui ont déjà un peu l'expérience pour la première fois, parce que le fait d'avoir déjà l'expérience, elles savent là où elles doivent éviter les pièges et les chutes. Donc, elles vont commencer à travailler dans cette communauté-là et on leur demande de rembourser journalièrement 500 francs, maximum 1000, pas au-delà. Quand ces personnes-là ont fini de rembourser, dans la même communauté, on choisit d'autres personnes. Donc, c'est un début. L'idée, c'est après créer l'idée de partage. On ne peut pas construire développement s'il n'y a pas de l'amour. Commençons là, quelque part. Ça peut être utopique.
Oui.
Ça peut être... les gens peuvent dire « bon yonoko, bon sakongwango » comme on aime dire ici. Oui, je pense que si chaque personne s'y met, ça peut changer.
Est-ce que justement ce changement que vous espérez là, vous l'avez vu avec ces communautés avec qui vous travaillez, ces personnes à qui vous remettez comme ça de l'argent pour développer une activité au finish, au fait devenir autonome, est-ce que vous avez vu réellement le changement?
Bon, je pense que pour voir un vrai changement dans une communauté, il faut du temps. Il faut un peu plus de temps. Comme je vous ai dit, j'avais commencé d'abord avec des orphelins. Ça a été la deuxième étape. Il y aura une troisième étape qui serait celui de trouver des centres de formation. Mais pour ça, j'ai besoin de partenaires qui peuvent venir en aide. Parce qu'on a beau vivre dans la ville de Kinshasa, mais il faut pas aller loin. Il faut pas aller loin pour se rendre compte. Même Barumbu, qui est au centre-ville, les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des coins, il y a des quartiers où il n'y a pas une goutte d'eau. C'est indécent. Les gens ne savent pas se faire soigner. Donc, troisième étape, ça serait la formation, mais aussi leur apporter la possibilité d'avoir des petits centres de santé. Mais pour ça, il faut chercher des partenaires.
Il faut chercher des partenaires.
Donc, j'appelle toute personne qui serait intéressée.
Oui.
à venir nous contacter. Alors, et nous aider dans ça.
Alors, vous êtes dans le social, Madame Jacqueline Moulamba-Caridas. Vous êtes également directrice des ressources humaines dans une entreprise locale. Vous êtes aussi entrepreneur. Est-ce qu'il y a une suite par rapport à cette carrière? Qu'est-ce que vous visiez après?
Juste apporter quelque chose de différent dans mon pays. Apporter. C'est surtout ça. J'ai une grande fille qui a 20 ans et je voudrais qu'elle vive dans un Congo meilleur. Moi, je connais un bon Congo. Aujourd'hui, c'est assez difficile. On a des jeunes, beaucoup de jeunes qui sortent de l'université, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'avenir. Et c'est pas ce Congo-là que j'ai envie de laisser ni à mon enfant, ni à mes arrières, à mes petits-enfants. Donc, je pense que nous avons tous la possibilité de contribuer pour que les choses changent. C'est plus ça. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Madame Jacqueline Moulamba-Caridas. Vous étiez notre invitée pour le magazine Étoile. Je rappelle que vous êtes directrice de ressources humaines dans une entreprise locale ici à Kinshasa. Vous êtes également entrepreneur. Vous évoluez également dans le domaine social puisque vous êtes vice-présidente d'une association qui s'appelle Lover One et puis fondatrice et présidente de l'ASBL Ajuda qui signifie aide en portugais. Merci également à Atina Salama qui a contribué à cette émission. On se donne rendez-vous avec vous la semaine prochaine.